Veille à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le lundi 16 juin, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
À Tel Aviv, ce matin, après une nouvelle nuit de bombardements, 4 morts et près d'une centaine de blessés après une nouvelle série de frappes iraniennes sur Haïfa et Jérusalem. Les dernières informations dans un instant. La population israélienne vit désormais au rythme des alertes aériennes et des explosions, quotidien stressant auquel on ne s'habitue pas, vous l'entendrez. Tout espoir de cesser le feu entre les deux belligérants semble illusoire à ce stade. Le président Donald Trump lui pense le contraire. Il appelle l'Iran et Israël à conclure un accord. Emmanuel Macron appelle de son côté à l'ouverture de négociations avec une nuance de taille, vous l'entendrez, lui préfère voir les Américains à la manœuvre plutôt que les Russes.
Europe 1.
Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bombardements, explosions, sirènes, plusieurs grandes villes israéliennes visées cette nuit encore, des missiles sur Jérusalem, d'autres sur Haïfa, bilan 4 morts, près d'une centaine de blessés. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Le dôme de fer est régulièrement vanté pour son efficacité, il finit par être submergé par le nombre.
Oui, c'est en effet ce qui se passe avec ce bilan particulièrement lourd pour cette attaque de missile survenue aux alentours de 4h du matin, heure locale, 3h, heure de Paris. 3 personnes ont été tuées par des missiles qui se sont abattus sur la ville de Petah Tikva, l'une des localités les plus peuplées du centre d'Israël. On déplore également un mort dans la ville de Mdemrak, à proximité de Tel Aviv. À Haïfa, dans le nord du pays, les secouristes recherchent activement 3 personnes portées disparues sous les décombres d'un immeuble d'habitation en partie effondré. En tout, plus de 70 blessés ont été hospitalisés, parmi lesquels une jeune femme très grièvement atteinte. Parallèlement, les frappes aériennes menées par Israël se poursuivent sans interruption en Iran, dans le viseur des avions de chasse. Plusieurs cibles liées à l'arsenal balistique et au programme nucléaire du régime des Mollahs, ainsi qu'un centre de commandement des gardiens de la Révolution à Téhéran, la capitale. On signale également de nouvelles éliminations de hauts gradés. Le chef des renseignements militaires et son adjoint ont été tués. En outre, un avion ravitailleur de l'armée de l'air iranienne a été entièrement détruit dans l'aéroport de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, situé à 2300 km de l'État hébreu, soit la plus grande distance jamais parcourue par l'aviation israélienne.
Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Vous êtes vous aussi soumis au régime des alertes anti-aériennes. On sait les Israéliens préparés, entraînés pour affronter ce type de crise. Il n'empêche, vivre sous la pression permanente des bombardements génère du stress. Charles Bouchain, c'est ce qui ressort des témoignages que vous avez recueillis auprès des habitants de Tel Aviv.
Oui, toutes les nuits, c'est le même scénario. Les Israéliens sont réveillés par des alertes assourdissantes sur leur téléphone, leur indiquant une attaque iranienne. Shana a 27 ans et habite à Tel Aviv.
On va dormir avec une sensation bizarre, sachant qu'on va être réveillé sans vouloir et avoir besoin de réagir très très vite.
Cette franco-israélienne vit dans un immeuble ancien qui ne possède pas d'abri. Elle se réfugie alors au sous-sol d'un centre commercial en face de chez elle, aux côtés d'une centaine de personnes.
Ils ont ramené du centre commercial quelques coussins, des choses pour qu'on puisse s'asseoir facilement et on se pose dans la salle et on tient la main de nos proches. Le cœur y bat très fort pendant ces moments.
Et au sud de Tel Aviv, à Bat Yam, ville frappée par l'Iran, Océane vit-elle dans un appartement équipé d'une chambre sécurisée en béton armé. Elle y a installé les 2 lits de ses filles.
Dans la pièce forte, on a mis de quoi tenir, de l'eau, à manger, des biberons, des couches, etc. Voilà, si on venait à devoir rester plusieurs heures, on a de quoi tenir.
Et les frappes ne se concentrent plus seulement la nuit. Pour la première fois depuis la riposte iranienne, les sirènes d'alerte ont retenti hier à Tel Aviv en pleine journée.
Charles Bouchain, bilan très provisoire de ces 4 jours de bombardements croisés, au moins 224 morts côté iranien, selon le ministère de la Santé iranien, un peu moins d'une vingtaine de tués, près de 400 blessés côté israélien. À ce bilan civil, il faut ajouter le militaire. Sous confirmation de ce que vous disiez Frédéric Simon, il y a quelques instants, le correspondant d'Europe 1 en Israël, Téhéran, annonce la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution et de 9 scientifiques du programme nucléaire.
4e jour de guerre et toujours aucun espoir de cesser le feu. Cela n'empêche pas Donald Trump de croire un accord possible entre Iraniens et Israéliens.
C'est ce que le président américain a laissé entendre juste avant de décoller pour le sommet du G7. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, alors que Téhéran promet une réponse dévastatrice aux attaques israéliennes, Donald Trump, lui, le martèle, l'Iran et Israël devraient trouver un accord et ils vont le trouver. C'est ce qu'il a écrit sur son réseau Truth Social, ajoutant que de nombreux appels ont lieu en ce moment. Lui-même s'est entretenu avec Vladimir Poutine ces dernières heures, estimant que le président russe pourrait jouer les médiateurs dans ce conflit. Donald Trump, qui avant son départ pour le G7 au Canada, a renouvelé son appel aux deux pays.
Je pense qu'il est temps de conclure un accord et nous verrons ce qui se passera. Ils se battent, mais il faut qu'il y ait un accord.
Donald Trump en est convaincu, l'opération militaire israélienne doit se limiter à la destruction des infrastructures nucléaires iraniennes. Selon la presse américaine, le président des États-Unis aurait rejeté un plan israélien visant à assassiner Ali Khamenei, le guide suprême iranien. Washington craint en effet qu'une telle action entraîne le conflit dans une escalade incontrôlable. Mais Donald Trump a prévenu, en cas d'attaque iranienne sur des bases militaires américaines dans la région, toute la force et la puissance des forces armées des États-Unis s'abattront sur la République islamique.
Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et c'est dans ce contexte de guerre Iran-Israël que vient de s'ouvrir le sommet du G7 au Canada.
L'occasion pour la France de faire entendre sa voix. Emmanuel Macron, très critique sur l'appétit manifeste de Donald Trump pour le Groenland, mais pragmatique sur le pouvoir de persuasion du président américain pour ramener le calme au Proche-Orient. Jacques Serret.
Emmanuel Macron espère que ce G7 va faire bouger les lignes.
Personne ne souhaite voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, mais tout le monde souhaite que la discussion et la négociation reprennent.
Mais en dehors de ces multiples échanges téléphoniques...
Et j'ai pu m'exprimer et échanger avec le Premier ministre Netanyahou, le président Pezeshkian, président iranien hier, et le président Trump.
Le président s'en remet à la puissance américaine.
Les États-Unis d'Amérique ont une vraie capacité à faire revenir tout le monde autour de la table, compte tenu du fait que la dépendance israélienne à l'égard des armes et des munitions américaines leur donne une capacité à négocier.
Tout en prenant ses distances avec Donald Trump, ouvert à une médiation menée par Vladimir Poutine.
Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité, a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies, puisse être en quoi que ce soit un médiateur.
Une divergence qui est loin d'être la seule. Ces dernières semaines, la Maison-Blanche n'a pas du tout apprécié la volonté d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Les sports avec le football et la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Le PSG réussit son entrée dans la compétition. Victoire 4-0 des Parisiens sur l'Atlético Madrid hier soir. Les huitièmes de finale sont pratiquement en vue. La Formule 1, victoire de George Russell sur Mercedes au Grand Prix du Canada. Il devance Max Verstappen et son coéquipier Kimi Antonelli. La première Ferrari, celle de Charles Leclerc, termine cinquième. Ouais, pas à la fête, le cheval cabré, sauf en endurance. Victoire et triplé Ferrari aux 24 heures du Mans. Troisième succès consécutif, Christopher Filhoc.
Oui, au terme d'une course à suspense lancée pour l'occasion par le tennisman suisse Roger Federer.
Pilote, démarrez vos moteurs.
La Scuderia écrit une nouvelle page d'histoire avec ce 12e succès. La Ferrari numéro 83, avec à son volant notamment l'ancien pilote de Formule 1 Robert Kubica, s'impose après 386 tours. La réaction à l'arrivée du premier Polonais à gagner cette course légendaire.
Gagner le Mans, c'est spécial. C'est l'une des courses les plus difficiles. Il y a quelques années, j'ai été tout proche de la victoire pour ma première participation, comme j'ai dû abandonner dans le dernier tour. Mais cette fois, tout était parfait.
Un succès décroché devant 332 000 spectateurs et qui consacre la domination de Ferrari. Grâce à cette troisième victoire d'affilée, la marque au cheval cabré profite d'un privilège rare. D'habitude, les vainqueurs ne repartent qu'avec une réplique miniature de la coupe. Cette fois, le grand trophée de la course trônera au musée de la marque en Italie, à Maranello.
Christopher Filhoc, eh ben tiens, il faudra être à l'heure. Vous êtes peut-être en voiture, mais attention aux limitations de vitesse. Hein. 8 heures, c'est le début de l'épreuve de philo pour 530 000 élèves des terminales générales et technologiques. C'est bien sûr le jour du bac, le grand jour.
Ah là là, quelle angoisse à 52 minutes de l'ouverture des épreuves. Bon courage à tous les bacheliers, les candidats bacheliers. Bon, ça va bien se passer.
Et aux parents qui stressent actuellement aussi.
Avec le contrôle continu, ils savent déjà si long ou si long pas globalement. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito Écho.
Le gouvernement cherche 40 milliards d'euros d'économies. Il espère en trouver au moins 1 milliard dans le crédit d'impôt sur l'emploi à domicile. Vous savez, c'est les gardes d'enfants, le ménage, le jardinier et cette ristourne de 50% sur votre feuille d'impôt. C'est la deuxième plus grosse niche fiscale pour l'État, mais c'est une très mauvaise idée d'y toucher, nous dira Olivier Babot dans 10 minutes.
Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 Matin.
Le géopolitologue Frédéric Ancel pour parler de la guerre Iran-Israël. Bon réveil avec Europe 1 7h09.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Donc là, si je fais un entretien chez vous, ça veut dire que...
Ça veut dire que vous repartez avec un an de garantie Toyota Relax.
Allez.
Un entretien est égal à un an de garantie, tout simplement. Même si vous n'êtes jamais venu chez nous.
Oh là là, 1 égale 1. Avec des maths comme ça, j'aurais eu 20 au bac.
Eh oui, un seul entretien dans notre réseau agréé Toyota suffit pour bénéficier d'un an de garantie Toyota Relax, même si votre véhicule est d'occasion.
Vous êtes fort en maths ?
Ça va.
Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'au 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier des deux termes matin, voire conditions sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Cofidis présente projet numéro 7, le projet qui reste sur le carreau.
Oh non, vous en avez assez des rêves qui se brisent. Avec Cofidis, c'est simple pour financer vos projets. Jusqu'au 30 juin, Cofidis propose un prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est pendant deux semaines seulement sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.
Hâte de partir cet été, mais je crains les galères en voiture.
Tu veux rouler tranquille ? Choisis les pneus Michelin, conçus pour assurer ta sécurité tout au long de leur durée de vie. T'en profiteras même après les vacances.
Tiens, du 2 juin au 27 juillet, il y a une promo sur les pneus Michelin. Jusqu'à 120 euros TTC remboursés pour l'achat de 4 pneus voiture. J'achète ?
Retrouvez les modalités de l'offre sur Michelin.fr, rubrique promo.
À suivre sur Europe 1, l'invité d'Europe 1 matin, le docteur en géopolitique Frédéric Ancel. Et puis avant 7h30, restez avec nous. Europe 1 vous offre un séjour en thalasso. Très bon réveil, il est 7h10.
Europe 1. De nos jours, les ados peuvent télécharger toutes sortes d'applications depuis les App Store, y compris celles qui ne sont pas adaptées à leur âge. Donner aux parents plus de contrôle sur les téléchargements d'applications peut aider à assurer la sécurité des ados en ligne. C'est pourquoi Instagram demande une réglementation européenne exigeant la vérification de l'âge et un accord parental sur l'App Store où les ados téléchargent les applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur instagram.com/accordparental. On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir. Offre particulière jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Au quotidien, prenez les transports en commun.
7h, 9h,
Europe 1 matin.
Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur en géopolitique Frédéric Ancel.
Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, enseignant à Sciences Po Paris. Votre dernier livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu. Les raisons géopolitiques d'espérer, c'est paru chez Odile Jacob. Tout le week-end, l'Iran et Israël se sont rendus coup pour coup par frappes militaires interposées, missiles balistiques et drones côté iranien, frappes aériennes et opérations au sol en territoire ennemi côté israélien. C'est quand même une drôle de guerre, Frédéric Ancel, sans combat direct, guerre qui tombe du ciel pour les deux peuples. Est-ce que vous pensez que cela va durer, Frédéric Ancel ?
Oui, ça va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oui, pour deux raisons. La première, c'est que les Israéliens, enfin l'état-major israélien, le gouvernement israélien, ont décidé d'en finir avec l'épée de Damoclès immédiate du nucléaire iranien. Je dis bien épée de Damoclès immédiate. Il s'agit bien de ne pas croire, parce que personne ne le croit, que des formules situées au fond d'ordinateur ou de cerveau vont tout d'un coup disparaître sous les bombes. Évidemment, l'Iran conservera un haut niveau de technicité nucléaire, mais ces derniers jours, ces dernières semaines, il semblait que vraisemblablement l'Iran allait arriver très rapidement à la capacité nucléaire militaire, ce qui pour Israël est une menace existentielle. Donc les Israéliens pensent surtout, enfin c'est ce qu'ils ont comme objectif, à retarder de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, cette capacité. Et puis du côté iranien, ça va se poursuivre parce que le roi est nu. Et depuis octobre dernier et l'écrasement du Hezbollah, au fond l'Iran, enfin la République islamique n'a plus que ses missiles à propulser essentiellement d'ailleurs sur des villes civiles pour montrer qu'il n'est pas définitivement à terre.
Oui, certains décrivent le régime des Mollahs comme faible et dangereux parce que faible, justement, Frédéric Ancel.
Oui, absolument, c'est le syndrome de la bête blessée, c'est vrai, mais en même temps, aux yeux en tout cas des Israéliens d'une part, mais de la communauté internationale, et notamment de l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, d'autre part, ce régime n'est pas si faible au sens de sa capacité de nuisance nucléaire. Il faut quand même rappeler d'un mot que depuis 2002, l'AIEA, c'est-à-dire l'ONU, c'est pas le Likoud de Netanyahou, c'est l'ONU, stigmatise l'Iran pour son avancée illégale en droit international de ses capacités nucléaires. Et je rappelle également d'une date, que le 1er janvier 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire aussi Moscou et Pékin avaient décidé d'une série de trains de sanctions qui d'ailleurs depuis n'ont jamais été levées, toujours sur le dossier nucléaire. Donc il est faible, oui, à l'intérieur, il est faible aussi parce que la population le déteste, ce régime, il est faible aussi de la perte de son proxy principal qui était le Hezbollah, mais il conserve pour l'instant, et on le voit bien, une capacité de nuisance balistique très considérable.
Oui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement de Benjamin Netanyahou espère un changement de régime à Téhéran? Il y a eu cet appel quand même de Benjamin Netanyahou à la population iranienne à se soulever contre le régime en place. Hein.
Oui, mais je pense que là, on est dans la pensée magique. C'est-à-dire que on comprend bien pourquoi Netanyahou appelle le peuple iranien à se soulever. Et il s'agit aussi, en stigmatisant très durement, et sur le plan moral et à juste titre, ce régime inique, mais pour légitimer ou surlégitimer, en quelque sorte, son offensive militaire massive. Ça, on le comprend. Mais le problème, c'est que les régimes ne chutent que très exceptionnellement du fait d'opérations militaires extérieures. Mmh. D'abord parce que une grande partie du peuple iranien, et c'est tout à fait compréhensible et légitime, est très patriote, sinon nationaliste. Donc si vous voulez, être libéré dans les fourgons de l'étranger, c'est jamais quelque chose de très positif.
Oui.
Et puis deuxième point, on fait une révolution lorsqu'on est exaspéré au quotidien sur le plan social ou sur le plan de la répression permanente, mais pas parce que des bombes extérieures tombent sur les chefs, y compris au nid de votre propre régime.
Et qu'est-ce que vous pensez que va faire Donald Trump? Que vont faire les États-Unis qui, à ce stade des opérations, se montrent assez hésitants? J'ai suivi toute la nuit sur les réseaux sociaux les fondus de ce qu'on appelle l'OSINT, c'est-à-dire l'information, le renseignement en open source. On a beaucoup commenté l'envol d'avions ravitailleurs militaires américains qui se dirigent actuellement vers l'Europe. Pourquoi vont-ils se positionner en Europe? Est-ce le signe que les Américains pourraient s'engager militairement en Iran, etc., etc.?
Oui, là on est sur le paradigme, enfin sur la quintessence de l'imprévisibilité du président américain, parce qu'en réalité lui souhaite, enfin se fiche un peu qu'Israël et l'Iran se fassent la guerre, mais je rappelle toujours que son prisme moyen-oriental, et on l'a vu il y a encore quelques semaines, c'est l'Arabie Saoudite. Oui. En fait, ce que craint Trump comme la peste, c'est que perdu pour perdu, le régime islamique d'Iran cherche à tout casser, et y compris les installations pétrolières saoudiennes et pourquoi pas d'ailleurs émiraties, puis surtout à bloquer la voie de navigation commerciale fondamentale du Golfe. Et là, ça coûterait très cher. Absolument. Et ça coûterait très cher à tout le monde, et surtout aux Américains. Je rappelle que l'Arabie Saoudite vient de promettre l'achat à concurrence de 140 milliards de dollars de matériel et de services militaires essentiellement américains, et c'est comme ça depuis des décennies. C'est pour ça que je vous dis que Trump, lui, il est prêt à soutenir, et c'est pas nouveau, Israël à fond contre l'Iran. Je rappelle d'ailleurs que c'est le même Trump qui, en août 2018, était sorti du fameux accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire qui avait été signé avec les Européens notamment et les Russes et les Chinois aussi et les Iraniens. Et donc c'est lui qui est revenu dans des négociations, et d'après les Israéliens ces dernières semaines, ces négociations en réalité elles n'étaient pas sérieuses, elles tournaient en rond. Donc on a aujourd'hui une imprévisibilité réellement très très grande et j'allais dire à l'épreuve du terrain de la part de Monsieur Trump.
Merci Frédéric Ancel, enseignant à Sciences Po Paris. Votre dernier livre, hein, La guerre mondiale n'aura pas lieu. Les raisons géopolitiques d'espérer, c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup Frédéric Ancel.
Merci à vous.
Il est 7h17 sur Europe 1.
Dans un instant, Olivier Babeau, l'édito Écho sur Europe 1, juste après le journal permanent Christophe Lamar.
4 morts et près d'une centaine de blessés. Bilan provisoire des frappes iraniennes cette nuit sur plusieurs villes israéliennes, dont Jérusalem et Haïfa. Réplique au bombardement de l'aviation israélienne sur plusieurs sites de missiles sol-sol. Téhéran qui reconnaît par ailleurs la mort du chef du renseignement des gardiens de la révolution. Le président iranien appelle à l'unité dans le pays. Les États-Unis du président Donald Trump demandent de leur côté à l'Iran et à Israël de trouver un accord. Cette crainte d'une escalade entre les deux belligérants sera au centre des discussions du sommet du G7 qui s'est ouvert hier au Canada. Dans l'actualité également, le bac, plus de 530 000 élèves des terminales générales et technologiques vont plancher sur la première épreuve ce matin, la philosophie à partir de 8h, et puis le football et la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Le PSG réussit son entrée dans la compétition, victoire hier soir 4-0 sur l'Atlético Madrid.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Et à 7h18 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito Écho.
Bonjour Olivier Babeau.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa.
Bonjour Olivier.
Tous. Olivier, ce matin, vous voulez revenir sur une mesure d'économie budgétaire qu'envisage le gouvernement, raboter le crédit d'impôt pour les emplois à domicile. Et vous n'êtes pas certain que ce soit vraiment une bonne idée, hein?
Alors oui Dimitri, on veut faire des économies, c'est bien, on essaye de faire le tour des niches fiscales pour ne garder que celles qui ont un impact positif, c'est très bien. Le gouvernement a annoncé que l'avantage fiscal pour la garde d'enfants et le soutien aux personnes âgées serait maintenu. Ce sont maintenant les services à domicile, donc c'est ménage, repassage, bricolage, jardinage, qui sont sur la sellette.
Mais le gouvernement soutient que pour ces activités, l'aide fiscale, c'est un coût inutile pour les finances publiques.
Alors, mais c'est là qu'est peut-être l'erreur. Il faut regarder l'intégralité des effets induits pour juger du bilan réel d'un dispositif. Une étude du cabinet Oliver Wyman avait estimé que chaque euro dépensé en aide fiscale dans les services à domicile en rapporte 1,50 à l'État en cotisations, TVA et impôts divers. Autrement dit, le solde actuel du coût pour le bénéfice, plus bénéfice serait 4 milliards d'euros. Alors pourquoi ? Mais parce que cette niche fiscale a un effet essentiel. Elle blanchit du travail au noir. Et oui, il n'y a rien de plus facile que de payer de la main à la main des intervenants à domicile. Et ce ne sont pas seulement d'ailleurs les happy few des beaux quartiers qui en profitent, mais aussi des classes moyennes en zone périurbaine ou rurale qui sont clients de plus en plus.
Alors l'idée du gouvernement, c'est de faire passer le taux de ce crédit d'impôt sur l'emploi à domicile de 50 à 40%. Est-ce que vous pensez que ça va suffire à briser l'incitation ?
On peut le craindre, une petite baisse peut avoir un gros effet, car dans ce secteur, on sait qu'il y a une élasticité prix qui est forte. Passer de 50 à 40% de crédit d'impôt, en fait, ça correspond à 20% de hausse de coût pour les particuliers, c'est assez considérable. Et on l'a vu en 2013, quand Christian Eckert avait tenté la manœuvre sous Hollande, l'effet fut immédiat, retour du travail au noir, baisse de l'activité déclarée de 15 à 20%, destruction nette de 150 000 emplois.
Donc le risque, si je vous ai bien suivi, Olivier, c'est que la mesure finisse par coûter plus cher qu'elle ne rapporterait.
Oui, alors le gouvernement en attendrait 700 millions d'euros, ce qui par les temps qui courent met des étoiles dans les yeux de nos amis de Bercy, mais en pratique on pourrait être assez déçu. Une personne quittant l'emploi déclaré pour une activité non déclarée prive le système des cotisations, des impôts correspondants, mais c'est plus grave que ça. C'est aussi une dynamique sociale qui s'inverse. L'emploi social à domicile, c'est la porte d'entrée sur l'emploi, l'insertion professionnelle, et cela concerne très souvent des femmes modestes, peu qualifiées. Il s'agit ici bien plus que d'économie, on parle de lutte contre les fractures sociales.
Donc il ne faut rien toucher ?
Non, il y a certainement des améliorations à apporter. On n'évitera jamais totalement les effets d'aubaine, mais on pourrait par exemple jouer sur le plafond annuel du crédit d'impôt pour limiter les gains pour les plus aisés. En tout cas, prenons garde en pensant réaliser un gain d'affichage à ne pas réenclencher la machine à travail au noir.
Signature Europe 1, Olivier Babeau.
Attention,
merci
à la
Olivier.
Clim, Olivier. Oui, prenez soin de votre voix.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Tous les soirs sur Europe 1, du lundi au vendredi, 18h, 19h. Vous retrouvez Punchline avec Laurence Ferrari. Punchline, c'est une heure d'info, d'analyse et de débat en direct sur CNews et Europe 1.
Oui, de l'info, de l'analyse et des débats avec Laurence Ferrari et ses invités que vous retrouvez tous les soirs de 18h à 19h sur Europe 1 et en simultané sur CNews.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Les enfants d'Europe 1.
Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur de la danse et de la dissidence.
Oui, 16 juin 1961, le danseur étoile russe Rudolf Nureyev passe à l'Ouest. Considéré comme le plus grand danseur classique du XXe siècle, il arrive à Paris lors d'Autriche et demande l'asile en France.
Oui, c'est l'histoire d'un gamin pauvre, né dans le train, le transsibérien, un garçon déterminé à atteindre la gloire, qui a commencé la danse classique à 17 ans et est devenu danseur étoile à 21 ans. Un forcené dans le travail, comme le raconte en 1974 sur Europe 1, Noëlla Pontois, danseuse étoile.
Il est très scrupuleux de son métier, il le fait très à fond. Il ne veut pas que les autres se permettent de ne pas faire leur métier à fond. Donc s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas parce qu'il trouve que ce n'est pas professionnel, il réagit brutalement.
L'événement politique de sa vie a lieu en 1961. L'artiste russe passe à l'Ouest lors d'une tournée à Paris. Il demande l'asile politique. Le KGB le surveille pour qu'il retourne à Moscou, mais il se réfugie auprès de policiers français. Scène racontée par Pierre Lacotte, ami de Nureyev, qui était sur place avec lui.
Il s'est précipité sur moi et il m'a dit « Aide-moi, aide-moi, sinon je me tue ». Et il a sorti un coup de papier qu'il avait volé. Il est devenu livide. Et lui savait que s'il retournait en Russie, jamais plus il ne reviendrait en Occident.
Et à partir de ce moment-là, Nureyev est protégé par la France. Il est considéré comme un traître dans son pays. Il n'y retournera qu'en 1989. En 61, en pleine guerre froide. Tous les journaux parlent du passage à l'Ouest de cette star de 23 ans. Nureyev, lui, poursuit sa carrière en Occident. En 83, il devient directeur de la danse à l'Opéra de Paris et s'exprime en français sur Europe 1.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui à un jeune qui débute ? Est-ce que vous lui diriez il faut rester dans une troupe ou il faut partir ?
Il faut d'abord ouvrir les yeux, les oreilles.
absorber tout ce qui est possible. Pour moi, qui m'a aidé beaucoup, qui j'ai voyagé, qui j'ai vu beaucoup de compagnies, travaillé avec beaucoup de chorégraphes, ça a ouvert les yeux, les oreilles, les âmes.
Rudolf Nureyev meurt 10 ans plus tard, en 93. « Mon pays, disait-il sur Europe 1, c'est le théâtre et sa nationalité, la danse. »
Merci, Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer.
Europe 1.
Et ça sent déjà bon les vacances ce matin avec le cadeau d'Europe 1 Matin. Écoutez bien, nous vous invitons toute cette semaine à prendre le large et à vivre une pause iodée inoubliable au Cure Marine de Trouville-sur-Mer en Normandie. C'est magnifique, hein, c'est un hôtel 5 étoiles qui trône face à la mer. Entre plage et centre historique de Trouville-Deauville, eh bien vous allez pouvoir vous détendre parce qu'on vous a concocté un programme magique. 3 nuits de rêve avec un sublime petit déjeuner tous les matins, ça va être sympa. 3 soins de thalasso, un spa somptueux de 2500 m2, s'il vous plaît, avec piscine d'eau de mer chauffée. Tout est pensé pour votre détente dans un lieu magique pour se ressourcer. Vous allez pouvoir découvrir ce lieu magique et peut-être votre futur séjour sur lescuresmarines.com. Et félicitations ce matin à Laurence qui écoute Europe 1 à Paris. Laurence, c'est vous qui remportez le séjour qui était en jeu la semaine dernière, direction l'hôtel de l'île de la Lagune dans le sud. Bravo Laurence.
Voici la question du jour. Dans quelle ville arrive Rudolf Nureyev en 1961? Est-ce Paris ou Londres?
Alors pour tenter votre chance ce matin et peut-être avoir autant de chance que Laurence, eh bien vous envoyez Thalasso par SMS au 739-21, 2x75 centimes plus coût du SMS. Le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance à tous. Et vous le savez, chaque jour un gagnant est tiré au sort parmi les inscrits et remporte un abonnement au JD News, votre magazine d'actualité en kiosque tous les mercredis.
Et à lire cette semaine dans le JD News, la méthode Giorgia Meloni, comment la présidente du Conseil italien redresse son pays. Bonne lecture.
Notez qu'à 8h10, Sylvain Maillard est l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le député Ensemble pour la République de Paris face à Romain Desarbres, c'est dans 3 quarts d'heure. Dans un instant sur Europe 1, la météo et votre journal.
Bonjour, c'est Pascal Praud, je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h-13h, Pascal Praud et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Oui, bonjour Pascal.
Ils nous ont déclaré la guerre. C'est insupportable d'entendre un discours pareil où on se voile la face et on ne fait rien.
C'est un plaisir de vous avoir et surtout un plaisir de vous écouter.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Praud et vous.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 3012 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG.
Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir « Je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim. » Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
TF1. Vibrez au rythme de la passion et des secrets d'un centre réputé de chant et de danse. Tout pour la lumière, votre nouvelle série quotidienne. Aujourd'hui à 18h sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Noroto. 6 heures de route sans clim, l'enfer.
Heureusement que j'ai pensé aux boissons fraîches.
Bah vu la chaleur, elles vont pas tenir longtemps.
Mais si, avec ma glacière électrique 25 litres Noroto à 59,99€.
59,99€? J'y crois pas.
Si, si, la glacière électrique 25 litres Noroto est à 59,99€ avec branchement électrique en voiture ou à la maison.
Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude Opinionway mars 2024. Conditions en centre et sur noroto.fr.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Le temps, Anissa a dit, matinée plus fraîche que les jours précédents, sauf dans le sud-est.
Ouais, hein. Dans le sud, il fait déjà chaud. 28 degrés, je vous le disais, à 5h du matin à Calvi, 23 à Toulon, 22 degrés à Nice et Marseille. Mais c'est vrai qu'ailleurs, on va respirer. Vous imaginez, seulement 9 petits degrés ce matin à Charleville-Mézières, ça fait du bien. Ça, c'est grâce au passage des orages ce week-end qui ont été localement très violents. 11 degrés à Quimper ce matin, 12 à Cahors et à Cherbourg, 15 degrés à Paris, 18 à Lyon. Alors la journée, comment elle va se présenter? On a quelques nuages qui traînent ce matin le long des côtes de la Manche, des nuages également sur les Hauts-de-France, ces nuages sur les Pyrénées et sur les Alpes. Le Mistral et la Tramontane soufflent. On a du Mistral jusqu'à 80 km/h. Ça va rafraîchir la mer et les piscines dans ce secteur. Mais c'est vrai qu'il va souffler toute la journée. Le Mistral, il va chasser les nuages. Et on aura une deuxième partie de journée vraiment très ensoleillée sur l'ensemble du pays. Mais une deuxième partie de journée où le thermomètre va grimper. Hein, 33 degrés à Manosque, 32 à Montpellier. C'est vraiment dans le sud où la chaleur sera encore très présente aujourd'hui. 31 degrés à Bastia et à Nîmes. 27 à Paris et à La Rochelle, 25 à Charleville-Mézières, Aurillac, Dijon et Quimper et 20 degrés à Saint-Brieuc. Malheureusement, on n'en a pas fini avec la chaleur. On se dirige vers un épisode caniculaire jusqu'à 38-39 degrés. En deuxième partie de semaine, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Il va faire très chaud dans le sud-ouest et cette chaleur va remonter en fin de semaine sur la moitié nord du pays.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1 matin.
7h-9h.
Dimitri Pavlenko.
Quatrième nuit consécutive de frappes iraniennes sur Israël et des services de secours israéliens qui font état de 4 morts, 87 blessés pour cette nuit, alors que Téhéran menace de mener des attaques encore plus dévastatrices contre des cibles vitales et de rendre le pays inhabitable. Vivre au milieu des frappes, caché dans des abris, l'angoisse au quotidien partagée par une mère de famille qui vit à Tel Aviv, c'est dans un instant sur Europe 1. Des frappes et maintenant aussi la crainte d'un embrasement à l'ensemble du Proche-Orient. Le président américain appelle Israël et l'Iran à trouver un accord. Donald Trump est arrivé cette nuit au Canada pour le sommet du G7. Et puis le bac 2025, première épreuve ce matin pour 530 000 élèves de terminale. Ça débute à 8h avec l'épreuve de philosophie. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Véronique Verdun. Bonjour Véronique.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les sirènes d'alerte suivies des détonations, l'angoisse des familles israéliennes calfeutrées dans des abris avec des nouvelles frappes iraniennes. Pour la quatrième nuit consécutive, des explosions entendues notamment à Jérusalem. Les secours israéliens font état à l'instant de 4 morts, 87 blessés. À Tel Aviv, les habitants restent enfermés une grande partie de la journée dans l'abri anti missiles de leur immeuble. C'est l'angoisse à l'écoute de ces frappes. Écoutez justement le témoignage de Sarah, franco-israélienne, mère de 3 enfants, âgée de 3 ans, 2 ans et 10 mois.
On sort dehors, mais vraiment dans les temps où l'armée nous dit que pour l'instant, il n'y a pas eu de tir de missile. Donc, c'est quelques minutes par jour pour permettre aux enfants de s'aérer. Donc, il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress. On est avec 3 bébés toute la journée à la maison à essayer de les occuper tant bien que mal. Et nous, on est obligés de se déconnecter aussi quand ils sont là de ce qui est en train de se passer parce qu'on ne veut pas leur transmettre cette angoisse. Donc, c'est très difficile. On rêve de pouvoir prendre l'air, de souffler et de retrouver une vie à peu près normale comme on avait avant le 7 octobre, mais pour l'instant, on sait que c'est pas possible et que notre armée, notre pays a du travail à faire pour que peut-être nos enfants puissent vivre plus calmement dans quelques mois, ouais, ou peut-être dans quelques années.
Un témoignage européen recueilli par Charles Bouchin. L'Iran affirme avoir frappé, je cite, avec succès Israël et menace de frapper avec des frappes plus dévastatrices encore contre des cibles vitales. Et à l'instant, l'Iran dit avoir pendu un agent du Mossad israélien qui avait été arrêté en 2023. De son côté, l'armée israélienne dit avoir frappé des centres de commandement des gardiens de la révolution à Téhéran.
Des frappes et la crainte d'un embrasement à l'ensemble de la région. Donald Trump appelle l'Israël et l'Iran à trouver un accord.
Et le président américain qui est arrivé cette nuit au Canada, où se tient jusqu'à demain le sommet du G7.
La crise au Proche-Orient et les menaces pour la sécurité en France.
Le ministre de l'Intérieur s'inquiète des répercussions en France du conflit entre l'Iran et Israël. Bruno Retailleau a demandé au préfet d'accroître la vigilance sur les lieux de culte, les rassemblements festifs. Le ministre de l'Intérieur a évoqué ces menaces hier dans les colonnes du JDD. William Molinier, concrètement, quelles sont ces menaces ?
3 principales menaces. D'abord, le risque endogène, des jeunes radicalisés sur Internet, susceptibles de passer à l'acte très rapidement sous le coup de l'émotion. Autre risque, celui d'action des services secrets iraniens directement projetés sur notre sol. Et il y a des précédents. En 2016, un attentat avait été déjoué. L'opération commanditée directement par le régime visait à faire exploser une bombe à Villepinte lors d'un meeting de l'opposition iranienne en exil. Enfin, troisième menace, elle est plutôt d'ordre publics, des manifestations mêlant soutien à la Palestine, antisionisme et antisémitisme. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait passer des consignes aux préfets. Les patrouilles de la force Sentinelle vont être doublées, notamment aux alentours des écoles, des lieux de culte ou des préfectures. Des mesures de protection qui valent aussi pour les intérêts israéliens et américains. Enfin, les lieux accueillant du public, les rassemblements festifs ou culturels vont également faire l'objet d'une vigilance renforcée.
William Molinier pour Europe 1.
Et c'est dans ce contexte de vigilance que la police lance une vaste campagne de recrutement.
Pour embaucher des policiers adjoints, vous pouvez les reconnaître grâce à ce galon bleu sur les uniformes. Pour postuler, pas besoin de diplôme, il faut avoir minimum 18 ans avec à la clé un contrat de 3 ans, un salaire de 1500 euros net par mois. Opération de recrutement dans les départements, illustration dans le sud-ouest, reportage Europe 1 de Stéphane Place.
Là, je vais vous donner des petits flyers. Dedans, vous retrouverez donc tous les renseignements sur les métiers de la police.
Un stand et un fourgon de police à l'entrée du lycée de l'Escar. Objectif, motiver et convaincre ces jeunes de devenir policiers adjoints. Pour être candidat, il suffit d'avoir entre 18 et 30 ans. Un casier judiciaire vierge, bien sûr. Pas besoin de diplôme, 4 mois de formation.
Donc, le recrutement que l'on organise au niveau du département. Vous avez quel âge?
Là, j'en ai 18.
Vous pouvez vous inscrire.
Argument qui porte et des jeunes qui n'écartent pas l'idée de devenir policier adjoint, tout en étant bien conscient que c'est un métier exposé, risqué.
Moi, ce serait plutôt pour protéger les gens. On peut très bien être blessé, mais ça fait partie du job.
Ça peut créer des appréhensions. Moi, je sais que non. M'engager, ça pourrait m'intéresser.
Pourquoi pas? C'est quelque chose de citoyen.
Le commissaire David Bouc est le patron de la police nationale dans les Pyrénées-Atlantiques.
L'objectif est de recruter des jeunes qui travailleront sur le département des Pyrénées-Atlantiques, de tester sur une période de 3 ans, renouvelable 3 ans, ce qu'est la police, puisque les policiers adjoints vont vivre les mêmes fonctions que les policiers sur le terrain, en police secours. Ils vont également faire de la police routière et du contrôle aux frontières.
Des policiers adjoints payés 1500 euros net par mois, sans compter les éventuelles primes. L'Escar, Stéphane Place, Europe 1.
Et une pensée, bien sûr, pour les 530 000 élèves de terminale qui passent ce matin l'épreuve du bac philosophie. Une pensée pour les parents aussi. Ça commence dans une petite demi-heure et le bac en poche, si cela peut vous rassurer. L'année dernière, le taux de réussite était de 91%, toutes filières confondues, près de 96% pour le bac général.
Oui, est-ce rassurant? Je ne sais pas. On aura l'occasion d'en reparler. Le conclave sur les retraites doit se terminer demain. Un accord est tout à fait possible.
Contre toute attente, le conclave sur les retraites pourrait se terminer sur une note positive avec un possible accord entre le patronat et les syndicats. Barthélémy Philippe, l'ultime séance de négociation prévue demain pourrait donc se conclure sur une note très positive.
Oui, donné perdu d'avance, le pari de François Bayrou devrait s'avérer gagnant. Le Premier ministre se dit confiant sur un accord qu'il a promis de présenter devant le Parlement. Pour l'exécutif et le MEDEF, dont la priorité est d'éviter un retour en arrière sur les 64 ans, l'essentiel est assuré, mais le MEDEF a fait des petits pas en direction des syndicats, par exemple sur l'âge de départ anticipé pour invalidité ou inaptitude, comme l'explique la négociatrice Diane Milleron-Desperrois.
Ce que nous proposons, c'est un bouger sur l'âge de 62 à 61 ans, sur les personnes qui ont une espérance de vie moins longue.
La réintégration des critères de pénibilité supprimés en 2017 fait aussi partie des concessions du patronat. À ce stade, seul le syndicat CFT freine, mais sa signature n'est pas indispensable pour un accord. En ce qui concerne les finances du régime, deux options sont évoquées. L'augmentation du taux de CSG pour les retraités aisés ou la moindre revalorisation des pensions par rapport à l'inflation jusqu'en 2030.
Barthélémy Philippe pour Europe 1. Le salon du Bourget ouvre ses portes. Ce sera jusqu'à dimanche, mais sans le patron de Boeing. Le directeur de l'avionneur américain a annulé sa participation après le crash de l'avion d'Air India qui a fait au moins 279 morts. À noter que les deux boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées.
Merci beaucoup Véronique Verdun. C'était votre journal à suivre sur Europe 1, l'édito international entre Tel Aviv et Téhéran ce matin. Après 3 jours d'affrontements sans combat direct entre Israël et l'Iran, on va se demander avec Vincent Herouet quel est le but de cette guerre. Vincent Herouet dans un instant.
Et puis ne manquez pas le Club Culture de ce lundi matin sur Europe 1 avec Héloïse Gouin, notre spécialiste des séries. Elle a vu une nouvelle série et vous savez qu'elle aime beaucoup les séries britanniques, mais elle adore les séries espagnoles et là c'est une série espagnole qu'elle a choisie. Et puis les lectures de cet été avec Nicolas Caro qui ce matin n'a pas choisi un roman, mais 8. Il se lâche Nicolas Caro, à tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h,
Europe 1 matin.
Assaïra, saïra, saïra, chez Citroën, nous on ira. Assaïra, saïra, saïra, nous ce qu'on veut, c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon,
canon, canon, canon
sur tous nos modèles Citroën chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y a la petite qui dort à côté.
Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant.
Mais il y a faute là ! Carton, monsieur l'arbitre, carton, monsieur l'arbitre !
Oh. Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Avec Mondial Piscine, chez nous, il y a un endroit pas comme les autres. Un endroit où l'on joue, où l'on rit, où l'on profite des belles journées, où chaque moment devient un souvenir à partager. Un endroit où Mondial Piscine donne vie à nos rêves. Mondial Piscine, conçu pour durer, pensé pour partager. Rendez-vous sur le site Mondial Piscine pour trouver le professionnel le plus proche de chez vous.
Tout a pris feu et tout s'est écroulé.
Quand Annick a perdu sa maison, Elodie, son agent mutuel de Poitiers, était là pour elle.
Il fallait beaucoup la soutenir.
Moi, ce qu'il fallait, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, qui soit sincère.
Moi, je connais tous mes sociétaires et je connais tous mes dossiers sinistres. Donc l'accompagnement, on l'aura plus qu'un assureur lambda. Ça, c'est certain.
Ça, c'est la vérité. Ça ne serait pas vrai, je ne le dirais pas. Hein. Non, négatif.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Il est 8h20, merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre début de journée. Très bon lundi à tous avec Europe 1 Matin et Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h.
Dans 10 minutes, votre édito politique sur Europe 1. On parlera de la saillie de Jérôme Guedj ce week-end contre Jean-Luc Mélenchon lors du congrès du PS. Le député de l'Essonne a qualifié le patron des Insoumis de salopard antisémite. Hein, c'est une citation donc. Alors évidemment, Jean-Luc Mélenchon exige des excuses. Le regard de Vincent Trémollet de Villers sur cette affaire dans 10 minutes. Le Club Culture d'Europe 1 Matin avec, comme chaque lundi, la série de la semaine. Bonjour Aloïs Guar.
Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'une série espagnole qui commence à faire beaucoup de bruit sur Arte. Ça s'appelle Querer.
Aimer en espagnol, ça veut dire. Le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour, je vous parle de la saga Malocène.
Ah, vous les avez tous là.
J'ai le pénac, j'ai le coffret.
Et les bras chargés.
A tout de suite, mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vincent, des salves de missiles iraniens sont encore tombées toute la nuit sur Haïfa et Jérusalem en représailles à l'attaque lancée vendredi par Israël contre le régime des Mollahs. Vincent, quel est le but de cette guerre?
Ouais, c'est la bonne question. Donald Trump a sauvé la vie du guide suprême, Ali Khamenei. Il s'est pas contenté de lui écrire personnellement pour lui proposer de renouer le dialogue comme il l'a fait en début d'année. Il a mis son veto la semaine dernière au projet des Israéliens de l'éliminer. Il y a peu de chances que le tyran lui en soit reconnaissant. L'ayatollah fulmine au quotidien contre les États-Unis. À 86 ans, on ne se refait pas. Il ne les croira jamais. Il suffirait que Donald Trump le veuille. Et la guerre s'arrêterait illico puisque le grand Satan livre les armes avec lesquelles Israël bombarde. En attendant, eh bien, le guide a dû évacuer Téhéran et il serait claquemuré dans un bunker loin de la capitale. La déclaration de la Maison-Blanche montre en tout cas que les Américains refusent de se laisser entraîner dans une troisième guerre du Golfe. C'est normal. Donald Trump a été élu sur ce programme. Benjamin Netanyahou l'a mis devant le fait accompli. Il a évoqué une vague médiation avec Poutine. Il a dit le contraire.
Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le verre et ce qui est offert. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui, Claire, en ce moment et jusqu'au 12 septembre 2025, Engie vous offre 100 euros pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité ELEC référence 3 ans. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire ? Appelez le 3443. Service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Bombe ? Non, c'est toute la République islamique qu'il fallait décapiter et c'est bien le régime qu'ils avaient l'intention de changer.
Vincent, j'ai pas la suite de votre texte, donc je vous laisse repartir. Hein.
Eh bien,
mais vous m'avez envoyé une vieille version. Mais non.
Non, je vais vous dire que les Israéliens ont bombardé les installations nucléaires de Natanz et Fardo, mais en surface seulement, oui. Alors que l'essentiel est enterré à des dizaines de mètres sous le granit. Ils ont donc ciblé la nomenclatura, mais pas les politiques, aucun député, pas les ministres, ni le président, ni le guide. Israël épargne aussi les infrastructures vitales et s'emploie à limiter les pertes collatérales, c'est-à-dire à éviter de tuer les civils. Et on voit bien qu'il ne faut surtout pas appuyer sur le ressort que l'on sait sensible du nationalisme perse. Il ne faut pas donner aux mollahs l'occasion de mobiliser la population qui les déteste et les méprise. La campagne de bombardement fait donc l'inverse des sanctions qui accablent tous les Iraniens. Les habitants de Téhéran fuient d'ailleurs en masse la capitale. Pour résumer, l'aviation israélienne a gagné la bataille du ciel et le Mossad règne au sol avec des éléments mobiles pour frapper au plus près. Le but de la guerre reste flou. Mais la démonstration de force s'impose à tous et toute la région l'observe attentivement. On note d'ailleurs la solitude absolue de Téhéran. Le Hezbollah n'a même pas tiré une roquette. Les voisins sont tous au balcon. Qui aurait imaginé ça avant le 7 octobre hein ?
C'est vrai, c'est une vraie bonne question. Mais j'ai toujours pas la suite de votre texte, Vincent.
Eh bien, on dira que ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que personne n'aurait imaginé ce qui vient de se passer avant le 7 octobre, notamment que l'Iran bombarde Israël. Le monde a totalement changé. Et on peut dire que Yahya Sinwar a changé le monde. Et c'est inouï si on réalise que ce massacre a réalisé en cascade la ruine de Gaza, mais aussi du Hamas, du Hezbollah, de Bachar el-Assad. Et maintenant, l'Iran, à son tour, qui est frappé au cœur. C'est la troisième fois quand même que la République islamique bombarde Israël. C'était le tabou absolu. Ça paraît maintenant presque banal. Et la riposte avec les missiles balistiques envoyés par Téhéran est réussi à percer la défense israélienne. Ils font des dégâts, comme on l'a vu hier à Bat Yam, mais ça reste une riposte calibrée, c'est qui est faite pour éviter la guerre totale. Et il s'agit simplement de sauver la face en renvoyant les habitants d'Israël aux abris.
Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci Vincent Hervouet. On va suivre cette crise, évidemment, au dénouement très incertain toute la semaine.
Ça va durer des semaines.
Des semaines, ça c'est le pari que vous faites, mais vous avez sans doute raison. Merci beaucoup Vincent Hervouet. 8h moins le quart sur Europe 1.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Place au Club Culture d'Europe 1 Matin. Et regardez, Vincent Hervouet, eux m'ont envoyé leur script définitif.
Et entier.
Oui, mais n'ont pas retouché leur papier. C'est vrai, moi, je me suis levé tôt ce matin. Oui.
Non, c'était très précis. Merci de votre analyse. Nicolas Carreau, ce matin, vous nous proposez, alors non pas un roman pour l'été, mais une saga en 8 tomes. Hein.
La saga Malocène de Daniel Pennac. Et là, je sais que beaucoup d'auditeurs font « Ah !» Parce que chacun des romans de cette série rappelle un moment. On se souvient, quand on l'a lu, ce sont des romans qui marquent des titres aussi, La Fée Carabine, La Petite Marchande de Prose ou Le Cas Malocène, Terminus Malocène, le tout dernier. Et ils sont édités dans un grand coffret très joli. Mais moi, je vous propose de commencer par le commencement, Au Bonheur des Ogres.
Oui, le tout premier. Hein.
Exactement. Daniel Pennac le publie en 1985. Il avait déjà été édité, mais c'est l'histoire des Malocènes qui le fera connaître. Malocène, c'est une famille, une fratrie à la tête de laquelle on trouve Benjamin, l'aîné. Leur mère est célibataire, toujours à droite à gauche. Et Benjamin a 3 sœurs et 2 frères. C'est un joyeux bazar. Ils sont installés à Belleville, le quartier de Pennac. Et dans Au Bonheur des Ogres, on reconnaît la référence au Bonheur des Dames de Zola. Les grands magasins ont aussi un rôle à jouer. C'est là d'ailleurs que s'ouvre le roman, un 24 décembre. C'est là où Benjamin travaille et son nom résonne dans tout le magasin parce qu'il est demandé au service des réclamations. Mais il est bloqué par le canon d'une arme qui le vise. Heureusement, c'est seulement un vieux monsieur qui joue avec un char télécommandé. Il monte et il arrive dans le bureau du directeur. Il y a là une dame très mécontente et son enfant. Lehmann, le directeur, est justement en train de lui expliquer que le coupable, c'est-à-dire Malocène, paiera.
Et quel est son crime ?
Le réfrigérateur que la dame a acheté quelques jours plus tôt, au lieu de refroidir, s'est transformé en incinérateur. Heureusement, pas de blessé, mais il lui assure que Malocène sera licencié et il lui passe un savon. Prise de pitié, la cliente se calme et demande à Lehmann d'être quand même indulgent. Avant de s'en aller, c'est en fait un numéro bien ficelé. Benjamin joue le rôle du bouc émissaire de ce grand magasin et c'est cette idée du bouc émissaire qui est au cœur du roman, mais le concept va prendre d'étranges proportions. Juste après cette scène, une bombe explose dans le magasin et ce ne sera pas la dernière. Et Benjamin va devoir trouver les coupables s'il ne veut pas endosser le rôle. C'est un roman virtuose, drôle, rocambolesque, étonnant.
Au bonheur des ogres, donc, et le reste de la saga Malocène donc, moderne, en coffret.
Europe1.fr.
Et voilà, Anissa a tout cassé. Merci. Le poids du.
Le poids du coffret. C'est le chaos, là.
Héloïse Goua, la série de la semaine à présent, vous nous recommandez une série espagnole.
Et vous le savez peut-être, Dimitri, en espagnol, le verbe querer signifie à la fois vouloir et aimer. Querer, c'est désormais le titre d'une série épatante, vertigineuse, même sur la violence conjugale. Alors ici, aucune scène de coup ou de maltraitance à l'écran, non. La fiction aborde ces sujets seulement à travers les témoignages, les souvenirs et les versions de chacun. C'est d'ailleurs peut-être ce qui rend cette série si puissante.
Alors qui sont les... Parlez-nous des personnages.
Mirène est une femme au foyer discrète d'une cinquantaine d'années. Elle vit dans un bel appartement à Bilbao. Elle a deux grands enfants et est mariée à un homme fortuné. Mais ce jour-là, Mirène trouve la force de se rendre au commissariat. Elle va porter plainte contre son mari. Alors elle en informe rapidement ses fils qui forcément sont stupéfaits.
T'as mis quoi sur la plainte ?
T'es pas obligé de dire quoi que ce soit.
Cristrion, c'est ton père quand même, arrête. C'est ta mère, non ?
Dans la plainte, il est spécifié comment votre père m'a fait subir des viols de façon répétitive pendant plus de 20 ans.
La série nous raconte donc l'implosion de cette famille suite à la révélation douloureuse d'une femme qui ne veut plus se laisser faire. Mais qui, les enfants, doivent-ils croire ? Leur mère, qui n'a jamais rien dit pour protéger ses fils, ou bien leur père, qui, lui, ne comprend pas bien ce qui lui arrive ?
Je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'ai pu lui faire, et à vrai dire, je ne sais même pas ce que c'est.
Et ton avocat, il dit quoi ?
Il est convaincu qu'elle est son avocate et c'est de me ruiner.
L'homme semble sincèrement persuadé de son innocence. Il normalise les coups de sang dans le couple. Il assure aussi que sa femme n'a jamais été très stable psychologiquement. Et c'est donc parole contre parole, puisqu'il n'y a aucune preuve. La victime doit raconter encore et encore les violences qu'elle a subies pour espérer un jour être crue par les juges.
Bon, qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série, Héloïse ?
Eh bien, d'abord, la sobriété, l'élégance des épisodes qui traitent pourtant d'un sujet difficile. La série ne donne de leçons de morale à personne, et ça, j'aime bien. Elle nous expose simplement, presque à la manière d'un documentaire, le combat d'une femme confrontée à un système judiciaire brutal pour les victimes de viols conjugales. Alors forcément, cette fiction est intense, bouleversante, mais aussi nécessaire. L'écriture très précise et didactique continue de nous alerter sur le processus complexe de l'emprise et des violences domestiques. Voilà une série que j'ai trouvée très intelligente, pour ne pas dire brillante. Elle commence à avoir plein de prix d'ailleurs, cette série.
Voilà, Querer, donc, mini-série, 4 épisodes, c'est à voir gratuitement sur arte.tv. Merci Héloïse Goua, merci Nicolas Caro, merci Vincent Herouet. À demain. Dans un instant, votre édito politique sur Europe 1, Vincent Trémollet de Villers, juste après le journal permanent, Véronique Verdun.
Les habitants de Téhéran paieront le prix des frappes iraniennes sur des civils israéliens. Déclaration à l'instant du ministre de la Défense israélien après une quatrième nuit d'attaque. Des détonations entendues notamment à Jérusalem. Les secours israéliens font état de 4 morts, 87 blessés. L'Iran qui menace Israël de mener des frappes encore plus dévastatrices contre les cibles vitales. Aux États-Unis, la chasse à l'homme aura duré 2 jours avec l'arrestation cette nuit près de Minneapolis de l'homme accusé d'avoir assassiné une élue démocrate et tenté d'en tuer un autre. Près de Toulouse, un tournoi de foot qui tourne à la bagarre générale. Cela s'est passé samedi, une scène ahurissante sous le regard des jeunes joueurs âgés de 10 ans. Des parents, des spectateurs ont envahi le terrain avant d'en venir aux mains. Bilan, un parent de joueur grièvement blessé, un éducateur d'un des deux clubs roué de coups. Le bac 2025, les portes des lycées vont se fermer dans quelques minutes. Plus de 530 000 élèves de terminale vont plancher sur l'épreuve de philosophie. Ça débute à 8h.
Europe 1. Et maintenant, parlons biodiversité avec la Fédération nationale des chasseurs.
Bonjour Marie-Astrid Lombard. Alors vous êtes chargée de mission biodiversité à la Fédération régionale des chasseurs Bourgogne-Franche-Comté, qui en partenariat avec VNF, les voies navigables de France, agit pour sauver de la noyade des animaux qui tombent à l'eau. Comment vous procédez ?
L'idée, c'est de solliciter voies navigables de France et également les chasseurs riverains des canaux pour capitaliser leurs données de noyade observées dans les canaux. Et on sollicite également le grand public par le biais d'une application qui leur est dédiée, qui s'appelle Vigifaune. Et puis ensuite, la Fédération se rend sur place pour identifier les emplacements les plus adaptés pour de futurs aménagements.
Et vous pouvez nous décrire ces aménagements ?
Il s'agit en fait d'inciser des berges qui sont jusqu'à présent verticales et de positionner des pentes douces en enrochement, ce qui permet aux animaux de sortir facilement du canal et de rejoindre les berges. Et ensuite, on positionne des pièges photos en face de chaque ouvrage pour évaluer le nombre et les espèces d'animaux qui sortent des ouvrages et juger ainsi de leur efficacité.
Merci Marie-Astrid Lombard, à bientôt.
Merci et rendez-vous lundi prochain pour parler biodiversité avec la Fédération nationale des chasseurs.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à
Vincent.
Tous.
Vincent, salopard antisémite, ce sont les mots employés par Jérôme Guedj au sujet de Jean-Luc Mélenchon. Ce week-end, le patron des Insoumis s'en est indigné. Il exige des excuses au Parti Socialiste. Alors, qui a raison, Vincent, le député socialiste Guedj ou bien le candidat à la présidentielle Mélenchon?
Jérôme Guedj a dit tout haut ce qu'une partie de la gauche pense tout bas depuis longtemps. Il n'y avait qu'à entendre les applaudissements à Nancy pour s'en convaincre. Au terme d'une semaine absolument délirante passée sous pavillon insoumis, Jérôme Guedj a courageusement crevé l'abcès. Je vous rappelle que jeudi soir, Jean-Luc Mélenchon a comparé Rima Hassan, dont l'œuvre se limite à quelques tweets dédouanant le Hamas et quelques selfies narcissiques, au grand Victor Hugo. Je vous rappelle que le même Mélenchon a proclamé « La République, c'est elle » avant de demander aux jeunes filles françaises de toutes devenir comme l'influenceuse Akeffié. Il était temps, Dimitri, qu'une voix forte dise stop. En 2 ans, avec une impunité insensée, la France insoumise a abandonné tous les combats sociaux pour se concentrer sur la seule dénonciation de l'État d'Israël avec un seul objectif, lui accoler de façon indélébile le mot de génocide. Comme le dit Alain Finkielkraut, désormais le mal prend le langage du bien. L'insulte, ça n'est plus sale juif, mais sale raciste. Et dans cette entreprise, Jean-Luc Mélenchon veut intégrer la dénonciation d'Israël dans le grand récit antiraciste, faire de Gaza le crime raciste absolu dont les juifs seraient le soutien indirect. C'est ainsi que le patron des Insoumis se fait le promoteur d'une nouvelle bonne conscience antisémite. Un salopard, selon le Larousse, c'est un individu sans scrupules qui agit envers autrui de façon ignoble. Que Jean-Luc Mélenchon soit sans scrupules, c'est une évidence. Que sa stratégie soit ignoble, c'est-à-dire moralement dénuée de toute noblesse, je crois qu'il est permis de le penser.
Mais c'est un second épisode, vous pensez, des deux gauches irréconciliables?
C'est plutôt la révolte d'une gauche qui a été tout simplement expulsée de la gauche pour être envoyée à la droite quand ce n'est pas à l'extrême droite. Ça a été le destin de Manuel Valls, de Fabien Roussel, et Jérôme Guedj est déjà accusé de faire le jeu du Rassemblement National en refusant de choisir entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est la conséquence de la pauvreté doctrinale de la gauche dont le corpus se résume à l'antifascisme, donc à la lutte contre le Rassemblement National. Cette discipline mentale et électorale va très au-delà des insoumis, puisqu'elle a été celle lors des dernières législatives du PS, de Gabriel Attal et d'une large partie de la Macronie. Mais la naissance ce week-end d'un nini, ni RN ni LFI au sein même du PS, nous indique que le Front républicain mis en place autrefois contre le Front national au long de la lutte contre l'antisémitisme pourrait désormais s'appliquer à la France insoumise. Ce serait absolument logique. Ceux qui refusent de pactiser avec l'antisémitisme doivent s'interdire tout accord électoral programmatique avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.
Et vous pensez que ce sera le cas, qu'une partie de la gauche rompra vraiment avec LFI ?
Hormis quelques exceptions, dont Jérôme Guedj, ça m'étonnerait que la gauche, à la fin, ne cède pas aux accords électoraux. Elle l'a fait après le 7 octobre et une campagne européenne, souvenez-vous, menée par Rima Hassan, qui s'est compromis, se compromettra. Mais pour le RN, la droite et le centre, en revanche, c'est un impératif moral et stratégique. Il faut que Marine Le Pen, Bruno Retailleau et Édouard Philippe définissent, comme on le fait en diplomatie, quel est leur adversaire prioritaire. Pour le RN et pour LR, c'est de plus en plus clair, c'est la France insoumise et ses alliés. Pour Édouard Philippe, c'est un peu plus flou, puisqu'il a été jusqu'à appeler à voter communiste pour faire battre le RN. Le calcul de l'ancien Premier ministre est simple, compter sur les réserves de la gauche pour battre le Rassemblement national au second tour. Le raisonnement de la droite devrait être exactement contraire, c'est-à-dire convaincre les électeurs du RN qu'elle est la mieux placée pour battre la gauche mélenchonisée.
L'édito politique sur Europe 1, merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, pilonné par Israël, le régime iranien tremble sur ses bases. À l'air aussi, les confidences de Françoise d'Ormesson, la veuve de Jean, qui aurait eu...
Qui a 100 ans aujourd'hui.
Précisément, on en reparlera dans la revue de presse tout à l'heure avec Olivier Delagarde. Merci beaucoup Vincent.
Il est 7h56, très bon début de journée avec Europe 1, bon début de semaine. Nous sommes le lundi 16 juin, c'est la semaine qui va voir arriver l'été. Bah oui, ce samedi, jour de la fête de la musique, c'est l'été. Et justement, tiens, en parlant de fête de la musique, un petit souvenir, il y a 47 ans, le 16 juin 1978, c'est la première à New York d'un film musical adapté d'une comédie musicale de Broadway avec Olivia Newton-John et John Travolta.
Vous
souvenez, Dimitri, de Sandy qui arrivait d'Australie aux États-Unis. Et il y a les garçons, les T-Birds, hein, qui sèment la panique dans tout le lycée. Eh bien, ce film, aujourd'hui, a 47 ans. Grease.
Bah voilà, fallait donner le titre. Dans un quart d'heure, la grande interview Europe 1 CNews ce jour. Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, sera face à Romain Desarbres juste après votre journal. La météo et le saint du jour sur Europe 1. Bon réveil.
7h, 9h, Europe 1 matin. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Du croustillant ?
Ah oui, en ce moment, les 4 baguettes croustilles dont une offerte sont à 2,85€.
72 centimes la baguette ! C'est une bouchée de pain ?
Bah on est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinschers.fr. 250 grammes, 2,85€ le kilo pour 4 baguettes, 3,80€ le kilo pour une baguette. Cuit sur place dans les supermarchés disposant d'un point chaud. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Après la découverte du feu qui a changé le cours de l'humanité, après la création de l'ampoule électrique et l'invention du télescope, voici probablement la plus grande innovation qui a changé la vie des patrons de PME.
Avec Conto, vous fixez des plafonds mensuels pour chaque carte. Vous êtes notifié en temps réel des dépenses de vos équipes et vous validez leurs demandes en un clic. En bref, vous faites gagner à votre équipe finance jusqu'à 2 heures par semaine en moyenne. Et ça, ça change la vie. Conto. Total Economic Impact, réalisé pour Conto par Forrester Consulting 2025.
Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le vert et ce qui est offert. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui, Claire, en ce moment et jusqu'au 12 septembre 2025, Engie vous offre 100€ pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité ELEC Référence 3 ans. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire ? Appelez le 3443, service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Bientôt 8h sur Europe 1, Anissa Dadi. C'est le soleil qui domine ce lundi.
Oui, on a droit à un très beau lundi, effectivement, un lundi sous le soleil. On a quelques nuages qui traînent ce matin et des brouillards le long des côtes de la Manche. Des nuages sur le massif central, les Alpes et les Pyrénées, mais ces nuages vont très vite se dissiper. Attention au Mistral et à la Tramontane qui souffle fort jusqu'à 80 km/h aujourd'hui. Alors ça chasse les nuages, il va faire très beau. Il va même faire très chaud au bord de la Méditerranée. On aura jusqu'à 33 degrés du côté de Toulon, 27